Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC.
15h-18h.
Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato. Il est 15h07, le Super Moscato Show. On y revient, on mastique comme tous les jours. Vous le savez, on est sur RMC de 15h à 18h. Vous le savez pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Exactement. À nous écouter, on vous en remercie, on vous embrasse. Et vous venez parfois, même souvent, et de plus en plus nombreux, picorer nos podcasts. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et ça, grâce à qui? Picorer, une grosse dévoreuse. Une mangeuse de santé. Elle est avec nous. Sarah Piposki, la diablesse. La rouquine carmélite. Comment ça va? Ah oui, il faut mettre le micro.
Comment vas-tu, Vincent?
Impeccable, et toi?
Très bien, très bien. Vous allez bien?
T'es arrivé avec ta petite trottinette?
Non, j'ai pris mes petites canettes, mes petites jambes. J'ai couru.
Très bien, ouais, t'as couru.
Et je suis un peu en transpiration, mais je garderai le haut quand
ça
même.
Ça se sentait un petit peu. Je pensais que c'était Pierrot qui avait.
Pas le droit de faire
un petit truc. Bah, en tant que chose, tout est permis. Oui, oui.
Tu sens ce mélange de Coco Chanel acheté au marché
tu
de
sais
voleurs.
Quoi, je porte du Chanel aujourd'hui.
Ah, tu le savais. Je le savais,
toi, c'est la petite robe noire.
La petite bourgeoise de la bolle.
Toi, c'est la petite robe noire, non?
La petite robe noire.
Tu portes un parfum féminin.
Mais toujours.
Oui. C'est ta part de féminité.
Toujours.
Mais Vincent l'a toujours.
Je ne te parle même pas de mes sous-vêtements.
Parce que bon, non, je te les laisse.
Parce que si tu as bien regardé mes chaussures, c'est mes semelles rouges, mes boutins aujourd'hui. Il est avec nous, The Flower, from Caen, le patron, comme on appelle là-bas, le boss des Barbarians, Denis Charvet. Comment ça va?
Salut Sarah, salut Pierrot, salut tout le monde.
Qu'est-ce qu'il dit? Les troupes sont en forme, sont frères.
Les troupes sont parties à entraînement sous la direction d'un énorme coach qui s'appelle Christian Labitte.
Christian Labitte, oui.
Et alors lui, je vais te dire, depuis son passage à Houston, il se prend pour la NASA, lui.
Ouais. Ah, lui aussi, on l'a envoyé sur la Lune, j'ai l'impression.
Il fait du tableau maintenant, là, il explique.
Non, les croix, les ronds.
Wow, ça, c'était pénible, oh, ça, les croix, les ronds.
Les croix, les ronds. Ah, c'était un peu, d'accord, j'ai compris. C'est la mise en place tactique sur Paperboard.
Oui,
les croix, les ronds, t'as appelé ça, toi.
J'ai te dire, les croix, les ronds, la moitié des gens. Au bout de 10 minutes, moi, je me mettais derrière.
Toi, tu croyais que c'était un morpion, que le premier qui alignait 3 ronds avait gagné.
Il n'y a pas assez de monde sur le terrain.
Alors, vous êtes bien, vous êtes prêt à prendre une belle rosée contre les Fidji, quoi.
On a fait une petite sortie, moi j'ai vieilli maintenant, donc je bois pas,
beaucoup,
mais bon.
Beaucoup de sur le moteur là. Hein. Ouais. Tu tiens jusqu'à samedi là.
Non, mais alors, je te dis, je
peu trop tôt ces réunions du lundi pour les Barbarians.
Je n'ai jamais été aussi sage, Pierrot.
Mais même Marseille, on m'a dit, pas vu Denis. Denis, mais c'est
non, cool.
Au vert.
Je suis pas sorti.
Non,
je suis ouvert.
Bravo Denis.
Tu rates quelque chose.
Bravo Denis. Par contre, le prochain qui va se mettre, moi aussi, je suis ouvert. Le premier qui va se mettre à notre roue quand on va repartir, je vais te dire qu'il va tout frire en contre. Je vais te le dire. Adrien Gouin.
Comment ça va?
Bien, et toi?
Alors, question moyenne toute la semaine, spéciale Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde, ça débute sur RMC, Vincent, dimanche, avec ce magnifique Qatar-Équateur, qu'on ne va pas louper, il va y avoir du jeu sur ce match. Question moyenne, si Neymar est champion du monde, le premier, peut-être le dernier titre de champion du monde de sa carrière, quelle sera la suite de sa saison avec le Paris Saint-Germain?
Excellente question, ouais.
Petit 1, il surfe sur l'euphorie, il est énorme, il fait gagner la Ligue des Champions à Paris. Petit 2, troisième mi-temps, beaucoup trop longue, il est catastrophique toute la fin de saison. Il y a deux solutions.
Là, c'est Beatit, c'est Michael Jackson, là, c'est du Smurf, tout.
C'est thriller plutôt.
Ouais, c'est thriller. Là, il va revenir, c'est la nuit des morts vivants.
Quel est votre sentiment si les champions sont
Dirty Diana.
Le profil.
Du cancre.
Plarf, explosé comme un popcorn, il y en a du sol au plafond.
Donc catastrophique, on peut rien plus rien en
dire. Deux mois ou trois mois, et là, obligé de passer un conseiller de discipline interne, et les mecs me disent, bon, maintenant, tu fais quelque chose, qu'on convoque le père, la mère, la tante. Denis, dit, voilà, c'est la dernière fois avant le Rambois.
Quel est ton avis, Denis?
Mais le problème, c'est s'il fait un passage à Rio. Quoi.
Voilà, je, ah, il n'aura pas le temps. Problème, hein, là. Trop le temps là,
la mais on ne sait jamais s'ils sont fêtés à Rio. Aussi.
Il... Mais ouais, non, mais s'il gagne, il oui. tu penses que le PSG va vouloir qu'il soit là tout de suite?
Ah, bah, il paye quand même le PSG bah, cher.
Il sera sous contrat quand même.
Il y a une journée de championnat le 28 décembre et le 1er janvier.
Déjà, il y a des signes qui ne trompent pas. Un mec qui, en temps normal, fait une boîte de nuit à 30 ans dans sa maison.
Oui, c'est pas
normalement, ça ne se fait plus. Quoi. On n'est plus dans les années 70.
Je vais vous surprendre. Oui, je vais vous dire, il surfe sur la vague, il casse la baraque.
Mais ça, c'est le support.
Pourquoi ouais, non, non, je vais te dire, pense comme toi. Moi, tu sais que je suis plutôt un pessimiste.
Oui, en fait, c'est
le
PSG, vrai.
On a vu,
oui.
on a ouais. découvert. Ouais. Là, c'est surtout que je sais que le scénario inverse est le pire. Ah oui. S'ils ne sont pas champions du monde, il là, c'est descente aux enfers.
Qui garantit. C'est par défaut.
Moi, je vais te dire que par défaut,
ouais. Oui, c'est par défaut.
Après l'équipe de France, je vais prier pour que le Brésil soit champion du monde, parce que sinon, le nez. Comme dit Galtier, on va le récupérer
sur le
8e sous-sol.
Surtout que vu sa santé, ça sera la dernière fois. Il a 30 ans, là, non 31.
30. Il a dit que ce sera sa dernière parce qu'il était usé mentalement de tout ça.
C'est sa dernière.
Ça va jusque quand son contrat avec le PSG?
Je crois qu'il a encore 4 ans là.
Encore 4 ans
ouais, il a 4 ans encore, oui.
Bah là, c'est le seul contrat comme au basket. Là. C'est 5 ans, 6 ans, bon. 80 millions.
Vous répondez à 72%, il sera catastrophique. Le troisième mi-temps sera trop long.
Croyez-moi, supporter parisien. Prier pour que le Brésil soit champion du monde.
C'est comme Denis, s'il est champion du monde en 87, est-ce que tu penses qu'on le récupère en 89?
On l'avait récupéré comme Denis en
89. On l'aurait récupéré en 89 ou 90 s'il avait été champion du monde.
Non, là, tu l'aurais récupéré en 2000. En 2022, tout le monde récupéré.
Mais non, mais t'imagines, t'es champion du monde avec le Brésil.
Mais déjà, il
revient pas, je te le dis, il y a des histoires, comme les Fidjiens, Sosoni, Bouka et compagnie, il y a des histoires. Les mecs obligés de dépêcher c'est-à-dire le Qatari paye le Mossad pour aller l'exfiltrer du Brésil.
Le grand écart, il est champion du monde, c'est quoi? C'est le 18 décembre, le 1er janvier, 21h, le 1er janvier, lance Paris Saint-Germain à Bollard.
Ah ouais, mais au moins, c'est une affiche. Ça aurait été pire.
C'est le deuxième du championnat.
PSG à Angers, tu vois.
Ça aurait été pire. Lance Paris Saint-Germain, c'est ça qui risque de le faire revenir.
Le premier contre le deuxième. Au moins, c'est
rien à cirer. Et ça commence en plus de victoire par un anniversaire.
Et oui.
De son pote Neymar, de Benzema.
Ils sont pas potes.
Ils se connaissent, ils ont fait bonjour comme ça de loin.
Aïe, 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 oui.
Tout le Bain.
Je dirais que ça. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, oui, oui. C'est tout. Oui,
oui, oui, oui. Alors, le programme cet après-midi, Nadal, est-ce la fin? Et là, on n'est pas heureux de poser cette question. Hein. Mais vous allez l'écouter, il est assez inquiet, Nadal. Jean-Pierre Papin à l'OM, pourquoi faire? Vincent règle le problème à 16h avec Eric Dimeco. Ouais. Et puis Christophe Galtier, qu'on va réécouter après son passage dans Rotten sans flamme hier. Christophe Galtier a-t-il encore quelque chose à prouver au PSG? 32-16, Twitter, sur tous ces débats. Apostrophe, Adrien.
Une super fusée, une méga fusée a pris la direction de la Lune, Vincent. Ça nous fascine. Mais c'est pas ce qui me fascine le plus. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est le monsieur de la NASA qui a une voix extraordinaire et qui fait 5, 4, 3, comme dans
c'est
les
vrai que Michael Buffer, le mec.
Sauf que ce matin, 5, 4, 3.
J'imagine s'il se trouve.
Non mais c'est bon.
On va l'écouter tout à l'heure.
Il a une responsabilité incroyable.
C'est extraordinaire. Back to the moon, il a dit. Back to the moon.
À 5, c'est bon. Moi, s'ils avaient fait commencer à 8, c'est bon. Une fois sur deux, je me serais planté.
Tu connais les chiffres de 10 à 20? T'arrives à les dire bien? 18 en anglais.
18.
Bravo.
18.
14.
14.
14.
C'est du trombone.
35.
Mais tu basket, on va faire un 14. C'est bon.
Je suis bien là. Il va plus haut, Pierrot. 35.
Comment on dit 123 en anglais?
123. 123.
Ouais, il a dit 123.
Bravo, Vincent. On est dur avec toi.
2512.
J'arrive à me faire quelques
2512.
Oh, je m'emmerde. 2512.
Oui, t'es bien parti.
523.
Mais bien.
Excellent.
Ça, c'est les dollars.
Moi, je compte un dollar, les caisses.
Et puis, dans le Kikadi, on vous offre cette semaine de vacances en résidence Lagrange Vacances pour 4 personnes.
Léo Lagrange.
Alors, attention. Eric Dimeco, qui est infernal depuis 15 jours, est en route pour un grand chelem, Vincent.
Non, mais là, il faut le calmer. Là, Denis, il faut se secouer, là, aujourd'hui. Je te le dis, il faut se secouer parce qu'il est infernal, hein, le Marseillais.
Et puis, bien sûr, le coffre RMC est toujours là pour vous avec la totale Coupe du Monde. Pour tenter votre chance, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Mais tout de suite, voici la fin dont Stephen a rêvé pour Nadal.
RMC, le Super Moscato Show.
Il monte. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il n'en croit pas ses yeux.
Rafa Nadal remporte cette finale haut la main, 6-3, 6-3, 6-0, une démonstration. Quel immense champion.
Franchement, sur ce coup-là, tu m'as déçu, Stéphane. Était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement ?
Le mec, il appelle, il a jamais fait de sport de sa vie, il vient, il met un tac, nous.
Écoute, réponds-moi, Stéphane. Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait.
Ah, mais au bout d'un moment, ça me casse la tête, hein, je te parle de préau. Breaking news.
Donc, c'est une très mauvaise passe pour Rafael Nadal, éliminé du Masters après deux matchs, deux défaites en deux matchs. On ne le reconnaît pas et surtout, il ne se reconnaît pas lui-même. C'est là où ça devient inquiétant. Vincent, Nadal a 36 ans. Est-ce la fin? 32-16. Alors, il a perdu deux matchs au Masters contre Taylor Fritz et Félix Auger-Aliassime, mais il reste sur quatre défaites consécutives. Ce qui ne lui est pas arrivé depuis l'année, le millésime 2009. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ouais, quatre défaites d'affilée pour Nadal, c'est pas arrivé depuis 13 ans. Un renoncement qu'il ne comprend pas lui-même.
Je ne pense pas avoir oublié comment jouer au tennis et comment être assez fort mentalement. J'ai juste besoin de récupérer ces sentiments positifs et toute cette confiance et cette mentalité forte dont j'ai besoin pour être au niveau où je veux être. Je ne sais pas si je vais atteindre à nouveau ce niveau, mais je n'ai aucun doute, je vais mourir pour cela.
I'm gonna die for it. Alors attention, il a dit quelque chose de très important. Ces deux matchs n'ont pas été un désastre sur le plan du tennis, mais un désastre sur le plan mental à certains moments. Alors là, venant de Nadal, dont je pense l'atout numéro un, c'est le mental, et ça a toujours été le mental. Est-ce qu'on est à un tournoi?
Oui, alors on l'a souligné pour Nadal, mais c'est quand même l'apanage de tous les sportifs de haut niveau. Je pense que Federer avait un mental de feu. Alors tout est peut-être d'une technique individuelle peut-être supérieure à Nadal, mais bon, c'est quand même l'apanage des regarde Djoko, le mental qu'il a aussi. Je veux dire, sans mental, regarde Benoît Père. Mais c'est quand même la base première, c'est un gros mental.
What?
Après, lui, c'est un cogneur. S'il a pas l'essence dans le moteur,
eh oui, mais là, c'est ça qui te dit. Mais, tennis, ça va.
L'enchaînement, c'est blessure, pète au moral.
Et là, il est sûr,
naissance du premier enfant.
Ils vont éloigner du circuit, Vincent.
Peut-être que, tu sais, il y a des moments où c'est un peu de temps en temps pendant le match. Tu le vois souvent, je regarde un coma là sur RMC Sport, le mec, il est là, il cherche, tu sais pas ce qu'il cherche, il regarde ailleurs, il est là, il boxe, il regarde ailleurs, comme s'il voulait plus être là où il est. Tu vois ce que je veux te dire? Des fois, tu cherches l'évasion sur un ring. Tu regardes d'ailleurs en te disant, je suis tranquille. Alors on dit, le mec, il est tranquille, il regarde d'ailleurs. Non, en vérité, il s'évade un peu, tu vois, psychologiquement, il s'évade de l'endroit où il est parce que ça tombe épais. Mais lui, des fois, il peut avoir des regards comme ça. Parce qu'il se cherche, il est plus là, il est plus concentré sur la bête. C'est un problème à résoudre parce que ça fait trois matchs qu'il perd. Est-ce qu'il les a perdus les trois de la même façon? Ou c'est le dernier qui, ou mentalement, les deux premiers, bon, il les a peut-être pas en forme, pas chaîne, tout ça. Est-ce que c'est le dernier? Ça, je vais le demander à ça. Parce que c'est le dernier qui perd comme ça. Parce que mentalement, moi je suis sûr que ça, c'est que ça, il va le récupérer. J'en suis persuadé. Le physique à 35 ans, c'est pas pareil. Mais le mental, il va le récupérer. Il va tout mettre. Alors, il te l'a dit, I die for it. Ça veut dire, je vais crever pour ça. Tu comprends?
Die for it. Si tu as raison, on n'est pas inquiet alors.
Mais non, mais.
Si ce que tu dis est vrai, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
What did you expect?
Sarah, tu as vu les deux matchs ou pas?
Non, j'ai pas vu deux matchs, mais quand tu vois les scores, tu te fait quand même une petite idée des matchs. C'est-à-dire que quand Félix Auger-Aliassime bat en 2-7 Nadal et Taylor Fritz aussi, tu te dis...
Il n'est pas là.
C'est pas le Nadal habituel. C'est-à-dire qu'avant de jeter l'éponge, il est... c'est un guerrier du jusqu'au boutiste, d'ailleurs, il le dit lui-même. Ensuite... Effectivement, alors il perd 4 matchs, mais bon, je les mets de côté ces 4 matchs. Depuis Wimbledon, il a eu quand même deux grosses alertes aux adducteurs. Donc déjà deux blessures, on sait que c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus compliqué à 36 ans. Tu viens de le dire, Pierrot, je pense que la naissance de son premier enfant est quand même quelque chose qui est bouleversant.
Ça les bouleverse, ça, maintenant.
Ça bouleverse. Ouais.
Avec beaucoup de difficultés aussi.
Oui,
beaucoup de difficultés à la fin de la grossesse de son épouse.
Il suivait à distance.
C'était dur.
Parce que tu peux devenir papa en début de carrière ou quand tu es en pleine ascension et que finalement, tu vas voyager avec ta femme et ton enfant. C'est-à-dire que ça donne une stabilité. Nadal, il n'a pas besoin de stabilité, il l'a déjà. Donc en fait, là... Peut-être que ça lui donne un autre sens à sa vie et il se demande où tu places le tennis. Et il y a aussi une autre petite chose qui peut-être le perturbe un peu, c'est l'arrêt de Federer.
Et tout
est-ce, que, est-ce, que, est-ce que l'arrêt de Federer ne te fait pas réfléchir sur toi-même? Leurs destins ont été tellement liés, ils ont une telle amitié, ils s'auto-admirent, mais foncièrement, hein, c'est pas du tout pour la photo. Est-ce que ça, ça n'a pas aussi marqué? On l'a vu en, en Lever Cup, il a joué un peu avec Federer.
Est-ce que je fais encore un?
Est-ce que tu te dis, Roger n'est plus là.
Je suis peut-être mieux un peu à la maison.
Je viens d'avoir un gamin.
Est-ce que ces petites choses-là n'ont pas baissé son taux de vigilance et sa motivation? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui le différencie d'un Djokovic ou d'un Federer sur le plan mental? C'est qu'il a une motivation et une dose de résilience à la souffrance, mais il est
espagnol.
Il est capable de s'en mettre plein la tête pendant des heures en fait. Et donc je me dis voilà, est-ce que ce genre de petites choses là font pas pour moi c'est un énorme point d'interrogation. Je le vois pas en début de saison revenir en Australie.
Donc beaucoup plus inquiète que Vincent.
Ouais.
Carrément tu le vois finir là-dessus peut-être.
Non, je pense qu'il va réessayer la terre battue et peut-être encore Roland Garros.
À 36 ans, peut-être que le gosse, c'est vrai qu'à 36 ans tu n'as pas la même appréhension d'un gamin.
Donc quand t'es papa à 22 ou 23 ans,
maintenant Vincent.
Peut-être que j'envoie un truc peut-être tu vois c'est pas pareil.
Il a voyagé pendant autant d'années. Est-ce qu'il se dit pas, maintenant je vais peut-être arrêter, j'ai envie d'être à la maison. Tu poses pas les mêmes questions.
Denis a même parlé de baby blues à un moment. Vous l'avez peut-être pas entendu.
Mais est-ce qu'il a pas un baby blues? Non, mais sérieusement, vous savez que le baby blues, ça touche les hommes autant que les femmes. Et pourquoi pas ce serait ça qui l'empêcherait de
comme toi Denis aussi mais moi aussi
sérieusement moi je suis plutôt très inquiet pour lui parce que l'an passé Sarah il a quand même gagné Roland avec le cette année, miraculeux, mais quand même tu vois c'est pas un Roland où il a été il a dominé la tête et les épaules
il a pas eu des gros matchs.
Il a évité Zverev aussi, donc.
Il l'envoyait là.
Oui, enfin, il a eu un énorme match quand même.
Contre Zverev.
Il se blesse autrement,
je pense qu'il il a attrapé.
Oui, mais il se blesse parce qu'il est sous pression aussi. Il gagne le rapport de force.
Même sous pression à ce niveau-là, les mecs se blessent pas tout le temps quand même.
Il est lâché en 5-7 contre Auger Aliassime déjà.
Oui.
Donc il a pas eu un Roland facile.
Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il a perdu en 2-7 chaque fois et que c'est son aveu qui me fait peur, moi. C'est-à-dire que c'est la première fois où Nadal fait un aveu aussi fort. Jamais il aurait fait ça avant. Là, il est en train de dire à ses adversaires, je joue bien, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Et le regard des autres va changer forcément et tout le monde va vouloir le battre. Et je crains que ce soit plus dur encore pour lui maintenant de gagner, il me semble.
La parole à Théo au 32-16. Bonjour Théo. Supporter de Nadal, Théo.
Bien sûr.
Ouais, t'es un nadaliste, quoi.
Comme tout amateur de tennis, hein, de toute façon. Hein.
Comme tout amateur de beaux jeux.
Avant, les admirateurs de Federer détestaient Nadal. Maintenant, ils ont été obligés de faire un reconnaître. Ils ont été séduits, en fait.
On est tous unis sur Djokovic maintenant, contre Djokovic.
Ah oui.
Mais qui va à son tour vous rallier à sa cause parce qu'il va finir avec 24 grands chelems.
Bien sûr.
Alors là, il égalisera en Australie et après à Roland, ils seront tous les deux à 22. Et là, Nadal, on va voir, il va se donner à fond, comme il a dit, il va mourir pour ça. Et je pense que même s'il faut qu'il gagne en fauteuil, ce Roland, il le gagnera en fauteuil.
Exactement. Toi, tu crois qu'il va revenir
qu'il n'est pas fini, Théo?
Mais on était en mai 2021, on disait Nadal, il a plus de pieds, il va arrêter. Au final, quart de finale, il met 4-7 à Djoko, tout simplement. Et là, 2022, ça va être pareil. S'il faut le battre, il battra.
C'est pas interminable, ce genre de situation un peu exceptionnelle. Ouais. Hein.
Non, mais la grande différence, c'est que la...
sur dur, c'est fini. Sur dur, en indoor, c'est fini.
On est d'accord.
Ça, je suis d'accord. Après, Roland Garros et l'US Open, pourquoi pas, mais le reste, c'est fini. Mais Roland Garros, pour moi, c'est le meilleur encore. Et sa motivation.
Oui, je crois que tu oublies, il n'y a pas que Djokovic sur terre battue. Certains, Carlos Alcaraz, qui, à mon avis, fera quand même office de favori à Roland Garros.
Mais la situation n'est pas la même. L'année dernière, nous, on avait des doutes parce qu'il était blessé. Et qui était en béquille, souvenez-vous, avant qu'il fasse l'Australie, il était en béquille. Cette année, on a le problème, il a voulu même qu'il en forme et que mentalement, il n'est pas là. Donc, c'est la première fois, il se déjuge. Enfin,
le Master, il a toujours été mauvais, franchement. Il a vraiment toujours été mauvais.
Il n'a jamais gagné le Master.
Non, non.
Pour moi, ça fait encore... et Wimbledon, il était en demi-finale, il s'est forfait. À ce moment-là, on disait que sa saison, elle était stratosphérique à 35 ans, 36 ans.
Oui, mais donc il a tenu la moitié d'une saison. Si on fait une analyse très pragmatique et très froide, à 36 ans, il a joué une demi-saison. C'est-à-dire jusqu'au Wimbledon, après il a enchaîné les blessures. Blessures, la naissance, mais en tout cas, je... Pour moi, ça, pas sa durée de vie, mais sa saisonnalité, mais une saison de 10 mois, c'est fini.
Ça, il en parle
c'est
plus,
terminé.
Mais il a le cerveau mangé par son pied, parce qu'il sait que ça peut revenir. Il a dit après Roland-Garros, j'ai joué 15 jours avec le pied endormi, je ne le ferai plus jamais. Je ne tenterai plus de gagner Roland-Garros dans ces conditions-là. Ça doit lui prendre la tête, Vincent, parce qu'il a joué avec le pied anesthésié quand même. Il a gagné Roland-Garros avec le pied endormi.
Il part en sucette, physiquement, il part en sucette. Et ça doit lui prendre le cigare.
Oui, je crois, surtout Vincent, qu'un mec aussi fort, il n'y a que l'arrivée d'un enfant qui pouvait perturber son cadre.
Absolument.
Elle est perturbée maintenant.
Tu en auras
ne plaisante pas, Pierrot.
Comment des
conneries.
Pierrot,
il te cherche.
Pris moi ma carrière internationale. J'aurais dû être deux fois champion du monde avec Hubert Bizier.
Il n'y a rien de plus bouleversant que d'avoir un enfant. Sinon, il y a quoi de plus bouleversant dans la vie? Qu'est-ce qui te bouleverse aussi?
Non, mais de vivre un jour de plus, c'est bouleversant. Donc, l'arrivée d'une vie, bien sûr que c'est bouleversant, mais dire c'est...
Alors, les mecs, dérégler, pour faire les faillots,
c'est le plus beau jour de ma vie. Et puis, il y a le 5 derrière. Alors, lequel des 5
c'est le plus beau jour de ta vie?
Parce que le plus beau jour de ta vie, il y en a qu'un. Alors, lequel des 5 est le plus beau jour? Il va falloir choisir. Le plus beau jour de ta vie, maintenant tu vas nous dire. Alors, de Rémi à Jean-Claude, c'est lequel que t'aimes le mieux?
Quelle est la fille que tu préfères, toi, Vincent?
Moi, je préfère que mes filles.
Dis-moi,
je ne peux pas les souffrir. Surtout la petite qui parle espagnol. Bon,
la dernière.
Entre gagner la Coupe du Monde de rugby ou avoir un enfant.
Je préfère gagner la Coupe du Monde de rugby. Parce que ça passe. Bien sûr, parce que les enfants, ils peuvent faire ce qu'ils font.
Tu es un homme, oui.
Moi, j'ai failli avoir les deux.
Regarde Denis.
Il peut avoir un enfant.
Emma,
il
a 7, il peut faire normalement. Il devrait avoir un.
Continuons dans le rugby fiction. Continuons dans le rugby fiction. Si tu avais été champion du monde de rugby, est-ce que tu aurais fait comme tous ces gars aujourd'hui qui viennent avec leurs enfants à la fin du match sur la pelouse?
Non, ça, je le fais
pas. Avec la Coupe du Monde et les deux gosses.
Non, ça, j'ai certainement plus d'heures pour ça. Je les giflerais. D'ailleurs, il faut essayer d'en choper un. On en invite un qui a fait ça.
Samedi à Marseille, ne critique pas les joueurs, Vincent, parce qu'on n'aura jamais un à l'antenne. Ils sont tous avec les gosses sur le terrain. Hein.
Ils vont venir en
c'est fini l'histoire.
C'est comme ça maintenant, Vincent.
Oui, allez, dans un instant. Vivre en groupe comme ça, t'es pas sûr que ton gosse, c'est le tien.
Dans un instant, la route du Rhum, qui connaît son vainqueur, mais qui est malheureusement endeuillé. Et on va y revenir tout de suite sur RMC. C'est le Super Moscato Show.
Il est 15h29, le Super Moscato Show. On vient tout de suite.
15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
On y revient au Mastic, il est 15h34, le Super Moscato Show. On avait la Sarah, puis Moscou, en forme, pam, pim, poum. Nous a régalé sur le tennis. Hein. On est là-bas le cul au niveau des Marion Bartoli, Sarah Piposki qui n'était pas venue, qui était intervenue, elle est revenue, mais fraîche. Fraîche. Steve Fou aussi au niveau du tennis de haut niveau. écoute-moi, ça me fait plaisir, on adore Steve
Fou. C'est fou, et plus ça passe, plus Steve Fou, il est persuadé d'être un grand joueur de tennis.
Tu vas t'entraîner un peu.
Oui, j'ai repris hier, lundi.
Je veux que sur le premier service,
tu l'éclates.
Tu lui vises les roues. Parce que 2 mètres, tu éclates la roue à plein voile.
Tu sais comment le battre, j'imagine, tactiquement, un grand. Ça,
oui, après, ça dépend, je sais pas comment il joue, mais on va organiser ça.
T'as vu ses genoux, il a le dépassement de Jeanne Calment.
Oui, bah, ses genoux, il m'arrive à l'épaule,
c'est son service.
Et
oui, mais tu peux te mettre un peu plus loin, et puis il faut dire encore qu'il soit dans le court. C'est facile de faire. Le tennis est un jeu de pourcentage.
C'est des petites balles courtes comme ça, au-dessus du filet, comme ça, knack. Voilà, c'est ça. On est avec Denis.
Non, mais on va organiser ça.
Tu sais que Denis était pas mal quand il joue. Parce qu'il joue souvent avec Cyril Hanouna. Il est
au paddle
et il prend des branlées quand même. Denis,
ah oui, au paddle.
Tu sais que Cyril Hanouna, il est dans les 100 premiers au paddle. Hein. Ouais. Il est très très beau. Très très bon. Adrien, comment ça va, Adrien?
Denis, c'est au ping-pong qu'il est bon.
Un petit Pierrot dans demi-heure.
Dans une demi-heure, JPP à l'OM, mais pourquoi faire? Vincent règle le problème. sur RMC. Mais d'abord, nous allons à Pointe-à-Pitre. Il n'y aura pas de jingle, ni cri de gueule, ni cri du cœur, parce que malheureusement, la course est endeuillée. On a appris ça quelques heures, quelques minutes après l'arrivée officielle, donc, et la victoire de Charles Caudrelier. Le chavirage d'un bateau suiveur qui a causé le décès de deux personnes. On va voir ça avec Pierre-Yves Leroux qui est sur place. Salut Pierre-Yves.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous.
Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de l'accident, sur ce qui s'est passé exactement ?
Oui, même s'il y a une enquête en cours, on a déjà quelques informations quand même qui ont filtré. J'étais moi sur l'eau, j'ai pas vu ce qui s'est passé. On était en pleine, mais les conditions étaient quand même assez... la mer est calme, si vous voulez, mais on est en pleine nuit. Il y avait peut-être 100 à 150 petits bateaux, petites embarcations autour du maxi Gitana de Charles Caudrelier. C'est un moment festif et forcément, il y a des vagues qui se créent. Donc, par moment, c'est un petit peu dangereux. Et cette embarcation où il y avait une douzaine de personnes a, semble-t-il, chaviré par une vague, en fait. Il n'y a pas eu de choc, mais tout le monde est passé par-dessus bord et deux personnes sont restées bloquées sous le bateau et n'ont pas pu être sauvées. Et évidemment, la course est endeuillée. Aujourd'hui, l'ambiance est retombée d'un coup au moment où Charles Caudrelier passait la ligne en vainqueur.
Alors, une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. On n'en sait pas plus que ce que nous dit pour l'instant Pierre-Yves Leroux. Alors, je précise qu'on devait être avec le vainqueur Charles Caudrelier, mais que tout a été annulé par l'organisation. On est d'accord, Pierre-Yves ?
C'est même Charles qui souhaitait pas, dans le contexte, être au micro, pour rigoler avec vous, comme il a pu me le dire.
On le comprend évidemment. Alors, Charles Caudrelier s'impose donc en 6 jours, 19h et 47 minutes à bord de son bateau Maxi Edmond de Rothschild. Il bat le précédent record de près de 24 heures, le précédent record de Francis Joyon en 7 jours, 14 heures et 21 minutes. Et tu l'as quand même croisé avant que la terrible nouvelle ne soit connue. Donc, on va quand même l'écouter quelques instants, Pierre-Yves.
Oui, c'est vraiment pour Charles Caudrelier, c'était un peu écrit entre guillemets parce que c'est la course qu'il faisait rêver quand il était tout gamin. Il est arrivé tout jeune en Bretagne, même s'il est né à Paris, et il était juste à Port-la-Forêt, vous savez ce qu'on appelle la vallée des fous là-bas. Il habitait juste là et voyait tous les Michel Desjoyeaux, les Jean Le Cam, et ça le faisait rêver. Et surtout, il a vu Laurent Bourgnon partir en 90 au Cap Fréhel, et il s'est dit ce jour-là, c'est ce que je veux faire, c'est cette course-là que je veux gagner. Et cette fois, c'est fait. Charles Caudrelier a gagné la Route du Rhum.
Cette course, je voulais la faire depuis le début. J'ai cru que je ne la ferais jamais. Et finalement, je l'ai fait dans les conditions qu'on j'aurais peut-être même pas osé imaginer, tellement c'est parfait. Et j'avais l'impression que c'était quand même l'aboutissement de toute ma carrière, de ma connaissance. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris encore dans cette équipe. J'avais très envie de gagner cette course pour moi, mais j'avais aussi envie d'ajouter cette ligne à son palmarès. Il a tout gagné. Maintenant, il a tout gagné, en tout cas. Toutes les courses qui existent pour ce type de bateau. Et il a quelque chose de particulier pour moi, ce bateau.
La première participation et victoire. Et c'est vrai, Pierre, que c'est pas forcément le marin que vous connaissez le mieux, Charles Caudrelier.
C'est pas le star de la voix.
Je crois qu'on l'a jamais vu dans le plateau chaud, d'ailleurs. On l'a jamais vu.
Ouais. En fait, il est plus connu à Sydney qu'en Bretagne. Et il me racontait cette anecdote. Il a demandé à ce que ses filles, à sa fille et son fils puissent venir à l'arrivée, donc pendant l'école. Et la maîtresse a dit vous êtes marin ? Parce que moi, je connais Samantha Davies, je la suis, mais vous êtes sur quel support ? Voilà. Donc, même dans son village, en fait, il n'est pas connu. Or, il a gagné deux Volvo Ocean Race, qui sont les courses en équipage autour du monde, qui sont vraiment très très connues. Trois Transat Jacques Vabre. Non, c'est pas en voiture, Vincent. C'est bien en bateau. Mais là, effectivement, avec une victoire sur le Rhum, il y a le Rhum et le Vendée Globe, vous savez, pour les Français. Cette fois, il rentre vraiment dans l'histoire et parmi les plus grands marins français.
François Gabart a franchi la ligne d'arrivée à peu près 3 heures après.
Il vient de parler là.
Ouais. Et maintenant, on attend Thomas Coville qui devrait être le troisième, c'est ça ?
En fin de journée, exactement, Thomas Coville qui complétera le podium, puisque Armel Leclerc, lui, a eu des soucis.
Deuxième.
Il vient d'arriver, il a passé la ligne, il est deuxième. Voilà. Et deuxième, une nouvelle fois, puisqu'il avait terminé deuxième.
Il avait cassé, il a réparé,
il est reparti.
Ouais. Il avait perdu combien ?
Là, il a trois jours devant lui, il n'avait aucun espoir, mais il voulait finir l'histoire. Armel Lecléache, vraiment maudit.
Merci beaucoup, Pierre-Yves.
Joyeux, tout ça, c'est la trapinette.
Ça va arriver, Francis. Ça va arriver, Francis Joyon aussi. Ouais.
Merci beaucoup.
La Moisou.
Il n'était pas au départ.
C'est l'heure de la pause truffe sur RMC.
La culture pour les truffes, Vincent. Ouais. Direction la Lune, comme Tintin. Tu te rappelles Tintin, il est allé sur la Lune.
Objectif Lune.
Objectif Lune.
Bien sûr. Tu l'as la fusée, là. Il la vanne, la fusée. À Damier, là, comme ça, ouais. Ah oui, oui, je me rappelle ça. Ah oui, oui, oui. On le disait souvent, ça, au Saint-Francis.
Objectif Lune.
Le disait. Objectif ce soir, Lune. 15h41, le super Moscato Show, on est tous.
15h-18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Mais 15h45, est-ce que je vous pose une question? Ce serait pour l'heure de la culture d'Adrien Gouin?
Pour les truffes.
RMC, c'est l'heure d'apostruffe. Le super
Moscato
Show.
L'entraîneur Enrique Iglesias. Il a dit on n'est pas chez Jacques Martin.
Voilà.
Parce que Enrique Martin, le fils de Jacques Martin, qui était Ricky Martin. Ricky, c'est Enrique. C'est l'association d'idées, vous ne l'avez pas compris.
C'est l'association d'idées, ça, Denis. Puis on voulait
que les gens
ne veulent
pas comprendre. Ça ne sert à rien de se battre. J'ai vite compris, ça ne sert à rien.
Non, mais l'exercice que tu viens de faire n'est pas évident.
Mon niveau.
Ton cerveau va très, très vite.
D'ailleurs, il avait été très réussi. C'est ça le problème.
Mon niveau est trop haut pour vous.
C'est vrai. Parfois, c'est notre truc que nous.
Comme vous venez d'entendre, apostruffe, c'est la culture pour les truffes parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie.
Non,
on adore apostruffe. Direction l'espace. On adore la conquête spatiale.
Houston, we have a problem.
Do you think? Houston, we have a problem. Do you think?
Ce matin, Vincent, c'était comme dans un film, sauf que c'était la réalité après plusieurs reports. Ce matin, la NASA, pas la NASA du rugby, mais la vraie NASA, oui, a fait décoller appellent leur méga fusée depuis la Floride en direction de la Lune, dans le cadre du programme Artemis One. Ils disent pas un là-bas, ils disent one parce que c'était aux États-Unis. 7h47 ce matin, en française, la fusée nommée SLS. La mission doit durer 25 jours, 98 mètres de haut. C'est-à-dire que la hauteur de la fusée, c'est un stade de foot. Vous vous rendez compte quand même? Tu la mets droit et tu la fais décoller vers la Lune. 98 mètres de long.
Alors, par rapport au terrain de foot, il y a plus de technologie dans la fusée ou sur le terrain de foot
Ça dépend qui est sur le terrain. Hein.
En tout cas, si tu as.
Ça dépend si tu joues en 4-3.
Le QI des 22 mecs qui sont sur la pelouse, est-ce que ça atteint le QI d'un mec dans la fusée?
Elle est partie vide, elle n'est pas habitée. Le but est de confirmer que le véhicule est sûr pour un futur équipage, avec pour ambition d'établir une présence humaine durable sur la Lune pour, parce que là on est en 2022 là, pour préparer un voyage vers Mars fin des années 2030.
Non, mais moi,
on sera encore là, j'espère.
J'ai une question intelligente. Qui a financé ça?
C'est NASA.
Elon Musk,
mais
c'est
privé avec association la NASA.
Qui finance aujourd'hui la NASA, c'est Elon Musk.
La NASA
J'ai mis un billet, moi.
La NASA.
Oui, tu verras sur le truc, Moscato Show fait son show.
A diffusé le décollage en direct, et moi j'adore ça, plus que le décollage, c'est comme dans les films, c'est la voix, parce qu'ils ont trouvé un monsieur voix aux États-Unis, et il fait tout, il laisse toujours la même voix, j'ai l'impression. Il fait le décompte, il doit appuyer sur le bouton.
C'est le même mec qui doit faire le cinéma.
J'espère qu'il appuie vraiment sur un bouton pour faire décoller la fusée. Écoutez ce qu'il dit, en plus il fait un peu de poésie, et il se permet un peu de poésie en plein décollage. C'est parti, monsieur voix États-Unis, allez-y.
And here we go.
10.
Hydrogen burn-off igniters initiated. 7, 6, 5, 4 stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
The moon and beyond. Retour sur la Lune et au-delà.
C'est énorme.
C'est Mars. Voilà. Mais je pense qu'il mais prend un plaisir de folie, le gars.
Est-ce que vous ne faites pas penser cette voix, Fred, quand il dit c'est la Golden?
Oui,
ça me fait penser à ça.
C'est la Golden, back to the moon.
Back to the moon, il l'a écrit ça, and beyond, non?
Ouais,
il l'a écrit.
Est-ce que c'est pas toujours ce genre de message depuis 69?
Ah non, non. Non, parce qu'on n'est pas, on va pas sur la Lune à chaque fois. Ça fait 50 ans qu'on n'est pas allé.
Ouais,
et après, on disait pas au-delà. Hein.
Est-ce qu'en 69, ils ont pas dit les mêmes. Peut-être qu'il a repris la phrase.
Ah, peut-être.
En 69, ils ont fait la même chose.
Je vais aller retrouver. Je vais appeler la NASA.
Ouais.
Je vais appeler
Monsieur Archive. Ils avaient chanté en même temps que la. En même temps que la fusée en 69 décollé. 69. Oui, c'est de là que ça vient, Pierrot.
Sans transition, alors sans aucune transition, des nouvelles de la séparation de l'année.
Je culpa tuya.
Et là, tu vas faire une estimation, ah, Vincent. J'ai besoin de te. J'ai besoin de tes.
Mon petit stylo, mon carnet.
Shakira et Girard. Girard Piqué se sont séparés. Girard aurait été infidèle, on en a déjà parlé. Bon, ça.
Salaud.
C'est pas prouvé. Très bien. Quand c'est comme ça, il faut trouver des accords pour que la séparation se passe du mieux possible. Donc, Shakira a eu la garde des enfants. Par Miami avec les deux enfants. Ok, bon, ça c'est réglé. Du coup, que va devenir Vincent? C'est là que tu vas entrer en scène, le grand manoir familial à Barcelone, puisque tu connais cette ville, ta fille il fait ses études. Selon le Daily Mail, ils ont trouvé un accord, ils ont mis en vente la résidence, parce que c'est trop grand pour Gérard tout seul, il peut pas vivre dans une maison aussi grande. Je te décris le quartier et la maison, tu me donnes le prix. Denis, tu peux jouer aussi, Sarah aussi, je sais que tu aimes bien ça.
J'ai le marché de Limoges,
mais il peut l'acheter, Vincent.
Le Bloguès des Llobregat, tu connais?
Bon,
ouest de Barcelone. Ouais. J'imagine que c'est un
bord de mer.
Composé de 5 niveaux. 30 minutes de Barcelone, 5 niveaux. Ouais. Un propre studio d'enregistrement de musique, parce que Shakira elle a enregistré ses albums, c'est un truc professionnel. Oui. Salle de gym, ça c'était pour Gérard aussi, et puis Gérard. Un cours de padel.
Bien sûr.
Oui, un mini terrain de foot. Un vrai mini terrain de foot, c'est-à-dire avec les deux buts, avec la pelouse et ça. J'imagine que c'était pour Gérard pour qu'il fasse ses gammes. Donc là, t'as le gros, ces gros manoirs. Vincent, j'ai pas plus de détails.
Avec combien de mètres carrés?
Bah, vous imaginez, 5 niveaux.
Il y a 400 mètres carrés.
Parce que t'es à Barcelone, donc ça sert à rien.
Piscine intérieure également.
Oh, intérieur aussi.
Ok, une petite bruine.
400-500 mètres carrés habitables.
C'est ça.
400-500,
1000 mètres carrés habitables.
1000 ou 1500 mètres carrés.
On y va, estimation.
On est à 10 millions d'euros.
7
millions d'euros.
7, 8.
Ah. 12 millions.
12 millions pour Sarah. Non, Ciro.
Aucune idée.
7, 8. Denis, toi qui as une maison dans Paris avec une piscine, Denis, tu peux.
Le parc de combien?
Ouais,
je sais pas.
J'ai 30 minutes de Barcelone. 30 minutes de Barcelone.
Moins de 10 millions.
Je vais vous donner le prix. Du coup, tu vas me dire ce qu'il y a comme détail supplémentaire. On n'a pas tous les détails. Entre 11,9 et 13,6 millions d'euros.
Oh, qu'est-ce que je suis bonne là-dessus.
Sarah, elle est galée aussi sur l'immobilier. Attention.
Non, mais t'as pas donné toutes les anecdotes.
Ah, alors vas-y.
Dans les bureaux de Cosmos, il paraît qu'il y a encore des photos de Shakira.
Bien sûr.
Oui. Et on se demande s'ils sont pas en train de se rabibocher. Va au bout de ton acronyme.
Si tu veux aller au bout, je sais que ça intéresse Piro. Il a été vu avec une nouvelle compagne.
Ouais. Je vais demander à ma fille. Ma fille
qui s'est fait couper les cheveux.
Non, Gérard, c'est rare.
Il s'est fait couper la couette. Je sais pas ce que ça voulait dire.
Draguer, faudrait peut-être attiboiser un peu la
fête. C'est pour ça qu'elle serait partie.
Il aurait été vu avec une jeune demoiselle âgée de 23 ans.
Oh.
C'était un peu vieux. 23 ans.
Gérard,
c'est vieux. C'est un peu vieux.
Sans transition.
Il est bon piqué au foot, Vincent.
Piqué moyen. Il est très bon. Alors, j'ai pas compris la dernière fois, Piro. J'étais surpris. Je croyais que ce mec, moi, pas un énorme.
Il a gagné la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe
du Monde, l'Euro. Et qui joue à Barcelone depuis 15 ans.
Charbonnier a gagné la Coupe du Monde.
En gros, Piro a tout résumé. Il a dit calmez-vous, Gérard Piqué, c'est pas Laurent Blanc, quoi. Voilà, Laurent Blanc, il est trois classes au-dessus de Gérard Piqué. Ça, tout le monde est d'accord. Le joueur.
Mais il a rien gagné, Gérard Piqué.
Prends le CV de Piqué. Champion du monde, Euro, Laurent Blanc. Champion du monde, Euro. Coupe du monde, Euro déjà.
Bon, allez, échelle, s'il te plaît. Échelle.
Sans transition.
C'est très nul comme musique.
Musique. Ah, c'est qui là? Belle test.
10-12, ça va partir à 8. Ah,
ça, c'est la voix.
C'est Rod Stewart.
Oui, Vincent.
C'est Rod Stewart.
Oh, ben là, la voix.
C'était une question du kick à l'hier, mais on peut développer. Rod Stewart, star du rock, le britannique, par conviction, il a refusé 1 million de dollars. Dans une interview au Times, il déclare le Qatar m'a offert beaucoup d'argent pour plus d'un million de dollars pour jouer au Qatar pour la Coupe du Monde, pour la cérémonie d'ouverture. Ils m'ont proposé ça il y a 15 mois, mais chanter au Qatar, ce n'était pas la bonne chose à faire. Il a refusé 1 million de dollars, Vincent.
Écoute, j'aurais été lui, tu sais, je l'aurais pas dit, et moi, et j'aurais cru. Parce que quand t'en pèses 250 ou 300, tu refuses 1 million. Quand il est riche, pendant 30 ans, c'était une des plus grandes stars qu'il y a eu au monde. Ouais. Donc quand t'en pèses 250 ou 300, tu fais pas les raisonnements. Parce que t'as pas envie d'y aller au Qatar, de prendre 1 million. Il aurait mis 10 ou 15.
Ouais. Non.
Je ne sais pas si ça aurait pas été.
C'est faux.
Non,
moi c'est faux.
C'est conviction.
Ce qu'il a dit, je l'ai fait plus jeune, je l'ai fait en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, et je l'ai regretté toute ma vie.
Alors, expérience de la vie.
Donc expérience de vie, d'accord, je me trompe. Très
parce qu'il explique que ça peut aussi être une occasion de faire une performance artistique, vendant la diversité ou quoi que ce soit devant des gens qui sont pas trop pour. Et donc, il a expliqué qu'il aurait pu réfléchir comme ça. Il ne l'a pas fait parce qu'il l'avait fait pour l'apartheid et qu'il l'a regretté.
Et alors,
toute sa vie.
Qui c'est qui va le remplacer? C'est les Village People, mais les vrais. Ceux d'il y a 40 ans.
Il y a Dua Lipa qui est refusé. En revanche, a priori, il y aura Shakira, les Black Eyed Peas, Robbie Williams, Maroon 5.
Ce qui est gênant dans ce type d'histoire, c'est qu'en fait, tu sais pas si ceux qui acceptent. Enfin, non, tu penses que ceux qui acceptent, c'est juste pour le chèque, en fait. Parce que quand on a d'autres qui
disent. Oui, mais
ça.
ambitieux comme
si tu refuses, ne dis pas quoi.
Non, mais tu vois, il a un certain âge, il s'en tire. Il a raison. Et bravo pour lui.
Bravo, Rod.
Rod, il peut se permettre, mais les autres, c'est l'affiche.
L'affiche
et l'oseille. T'as raison. Il y en a un qui avait refusé. Au foot, c'était Rocheteau d'aller en Argentine parce qu'il y avait 78. À l'époque la révolution des généraux, la dictature. Il avait refusé d'y aller.
Il n'était pas allé, Diro ?
Alors, je me souviens que l'équipe de France n'avait pas voulu boycotter, mais je pense que Rocheteau a fait une exception.
Diro, tu vérifies en direct. Attention, check.
Il faut vérifier. Ouais.
Fact-checking au Piro en direct. C'est comme dans les sérieux, tu sais.
Michel Hidalgo avait refusé le boycott.
Oui,
Michel, ouais.
Alors Pierrot, il y a
on va vérifier.
Michel était devenu Hidalgo, qui était après devenu dictateur en Colombie. Après, il était devenu.
Alors, Eric Dimeco qui nous écoute, qui arrive, nous dit que c'est Johan Cruyff qui avait refusé de
jouer
cette Coupe du Monde. On va vérifier parce que quand on ne sait pas, on ne s'avance pas. Et on vous dit à 16
ans.
Rocheteau avait discuté la Coupe du Monde, mais il avait été le plus virulent pour protester. Il voulait que l'équipe de France porte un brassard noir, mais il n'avait finalement pas.
Dominique, excusez-moi,
Je retire, excusez-moi, Dominique.
Il était fort au foot, Rocheteau ?
Non, il était nul.
Plus fort que Piqué ou pas ?
Alors, écoutez-moi, non, Rocheteau était extraordinaire. C'était le salaire de frisé sur la tête. C'était Martin Circus, quoi. C'était Martin Circus, le guitariste et Martin Circus.
Rocheteau, tu sais, c'était ma première idole. Ma première idole, c'est Dominique Rocheteau. Avant ça, c'était
Suzuki.
Avant Louis Fernandez.
Avant Louis, il va être fâché.
Je veux dire, chronologiquement parlant, la première idole de mon enfance, c'était Dominique Rocheteau.
Et le troisième, tu m'as toujours dit, c'était Tabata Cash. Mais le maillot de Tabata Cash. Et t'as d'ailleurs acheté le maillot de Tabata Cash, qui t'allait très bien. Avec cette petite
je porte de temps en temps.
Qui te rentrait dans la fesse, c'était magnifique. 15h56, le super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, 15h18h, le super Moscato Show.
RMC, football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre ? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.